On commence la page 27 à 3, la colonne de gauche à haut. Tanou Rabbanan Asher Tova Dimen. Donc la Gemara maintenant va analyser quelle est la valeur la plus basse que peut avoir une trouvaille. Ça veut dire en dessous de laquelle on n'a pas besoin de rendre ce qu'on trouve. Donc Tanou Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Ils ont enseigné, ils ramènent le verset de la Torah qui parle de la misère de la Shavat Aveda. Il dit Asher Tovad Mimenu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Asher Tovad qui sera perdu. Alors où il était ce verset? Donc, on va passer dans le côté Gemara. Vous rappelez le côté Gemara? En bas de la page, donc en bas à gauche, Torah Or Hashalem. Le passage avec les Nekudot. Du côté Gemara, à gauche, complètement à gauche. Le passage, voilà. Ça c'est le pasouk qui parle de la misère de Shavat Aveda. Il dit Vechen ta'ase la chamoro, ainsi tu feras pour son âne. Vechen ta'ase le simlato, ainsi tu feras pour son vêtement. Vechen ta'ase le chol aveda tachira, et ainsi tu feras pour toute perte de ton frère. Vous rappelez-vous, la semaine dernière, on a expliqué pourquoi la Torah avait besoin de répéter l'âne et le vêtement, etc. Asher tovad mimenu, pour toute perte de ton frère. Asher tovad mimenu, qui sera perdu de lui. Suivez ? Pour toute perte qui sera perdue. On appelle ça un pléonasme en français, c'est ça? Ouais. Pour toute perte qui sera perdue, ça veut rien dire, il y a un problème. Ou metsata et que tu la trouveras, bon ça je veux bien, le tuchal leit alem, tu ne pourras pas l'ignorer. Donc maintenant qu'on a vu ces pasouks-là, on a compris qu'il y a un pléonasme, il y a un problème. Il y a rien, il y a aucun mot qui entre dans la Torah. C'est pour ça que nous dit de la Gemara, Tanoura Banal, Rabbi m'enseignait, Asher Tovad Mimenu, lorsqu'on nous dit Asher Tovad Mimenu, que toute perte qui sera perdue, de là on comprend, Prat la Aveda chez Enbash Repruta, on exclut une perte qui n'a pas une valeur d'une prouta, ça veut dire qu'il n'a pas une valeur donc d'à peu près, c'est l'équivalent de 15 centimes d'euros. Ça veut dire que moins que 15 centimes d'euros, d'accord, c'est par rapport au poids de l'argent, mais c'est l'équivalent de 15 centimes d'euros, moins que 15 centimes d'euros, on considère qu'on n'a même pas perdu la chose. C'est même pas une perte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que le verset dit. Pour toute perte qui sera perdue de lui. Ça veut dire qu'il y a une perte qui n'est pas perdue. Il y a une perte que c'est comme si je l'avais jamais perdu parce que ça ne me dérange pas, je l'ai perdu.
Donc on rentre dans le système, quelqu'un qui la réclame et...
Donc la personne réclame.
Pas de siman, pas de
moins
réclame.
Quand ça a la valeur de moins d'une prouta, même s'il y a un siman, tu le prends.
Par contre, ça a une valeur de tzedaka. Si tu as moins de prouta,
pardon,
si une tzedaka qui a moins d'une prouta de valeur,
oui, ça a quand même
ça une valeur. Ouais.
Rabbi Yehuda Omer, oui. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda Idi, Umetzata, Prat la Veda Shenba Shavu Prouta. Rabbi Yehuda, il apprend c'est la même chose, mais d'une autre partie du verset. C'est qu'à la fin du verset, c'est écrit, rappelez-vous ce qu'il disait le verset, ainsi tu feras pour toute la perte de ton frère, qui sera perdu de lui, on s'en expliquait simplement au ou metzata, et que tu la trouveras. Rabbi Yehuda, il dit, moi j'apprends la même chose, qu'il faut que la valeur, il faut que la perte a une valeur minimale, du mot umetzata. Qu'est-ce qu'il dit le mot umetzata? Le mot umetzata, il dit, et tu la trouveras. Ça veut dire qu'il te dit qu'on considère que même, on ne se met pas du côté de celui qui a perdu, on va se mettre du côté de celui qui a trouvé. Que c'est seulement quand ce que tu as trouvé a une valeur de quelque chose, d'une trouvaille. C'est-à-dire moins que 15 centimes, on considère que les gens ils laissent par terre, ils se prennent pas la tête à le prendre. D'accord? Donc, il y en a une marque entre Rabbi Yehuda et le premier avis. De quel mot du passage qu'on comprend? Le premier avis de la Gemara, il comprend que on comprend ça du premier partie du verset. De la première partie du verset qui dit « Asher tovad mimenu, toute perte qui sera perdue de lui ». En d'autres termes, d'accord, moins que 15 centimes d'euros, c'est même pas perdu. Rabbi Yehuda dit non. Il dit moins que 15 centimes d'euros, c'est peut-être perdu. Mais c'est pas trouvé. Celui qui l'a trouvé, c'est pas considéré comme si qu'il a trouvé quelque chose. Donc ça dépend où on met la perspective, si on la met sur celui qui a perdu, ou si on la met sur celui qui a trouvé. Quoi qu'il en soit, la halakha ne change pas, a priori, pour l'instant. Donc c'est pour ça que la Gemara pose la question, elle dit « Maï benayou ». Qu'est-ce qui diffère entre les deux? C'est la même chose. Qu'est-ce que ça change de quel mot du verset on apprend? De toutes les façons, quoi qu'il en soit, on a compris le principe. Tu m'as dit que moins d'une prouta, est-ce qu'il faut rendre ou est-ce qu'il ne faut pas rendre? Moins d'une prouta, on ne rend pas, on fait comme. Il n'y a rien, c'est
même
pas obligé de le prendre.
On ne peut pas le ramasser. Hein.
Oui, il faudrait peut-être ne pas le ramasser. Rama et Benayou, c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? Non. Vous savez, par exemple, en France, on n'a pas vraiment ça, mais aux États-Unis, ils ont le système des consignes des bouteilles, des canettes, etc.
Il y a ça en France avant.
D'accord? Et on voit des fois des... Ça fait de la peine, mais on voit des fois des clochards qui se baladent avec des caddies remplis de canettes. D'accord? Et ils doivent faire quand même quelques euros, hein, enfin quelques dollars. D'accord? C'est pas mal, hein? Enfin, j'en ai déjà vu comme ça.
Ouais, c'est 25 dollars. Hein.
Ouais, ça, c'est pas rien.
100 canettes.
D'accord? Donc une canette, une fois qu'elle est terminée, quelqu'un qui trouve une canette par terre.
Quoi, une canette, elle est consignée?
Bien sûr.
Ah bon?
Elle est consignée.
Dans les bouteilles, je crois.
Mais la canette, je
sais pas. Ah oui, c'est bien sûr. c'est consigné. Ça dépend des endroits, ça dépend des états.
Tu la ramènes.
Elle est consignée, oui. Tu la ramènes, tu as une boîte automatique, tu mets tes canettes, et après, ils donnent l'argent. Ouais. Je crois que tu donnes 5 centimes, je crois, un truc comme ça.
25 centimes, c'est marqué. Moi, j'ai vendu des canettes comme ça qui étaient pour le Canada, il y a marqué dessus
25 centimes.
Je regarde, mais on n'a pas ça en France. 25 cents.
25 cents, c'est la moitié du prix de la canette.
Oui, c'est bien pour les pauvres.
Voilà. D'accord. Alors, donc Maï Benayou, quelle différence il y a entre les deux? Entre donc le premier avis et le deuxième avis, l'avis qui dit que moins que 15 centimes c'est pas une perte, et l'autre avis qui dit que moins que 15 centimes c'est pas une trouvaille, ça change pas, ou peu importe tu mets la perspective, toutes les façons, faut pas le rendre. Maï Benayou, Amar Abaye a dit, Mashmaou Torshin Ika Benayou. Ça veut dire qu'il dit que tu as raison, dans la halakha il n'y a pas de différence. Dans la halakha il n'y a pas de différence, c'est une bonne question que tu poses. Selon la halakha, selon les deux avis, peu importe de quelle partie du verset on apprend, de toutes les façons, un objet qu'on a trouvé qui a une valeur de moins d'une prouta, on n'a pas besoin de le rendre. Mais Mashmaout Dorshin et Kabenayou, leur marloquette sera seulement de quelle partie du verset on l'apprend. Pas quelle est la halakha. Donc effectivement, il n'y a pas de différence dans la halakha. Mar, Nafkale, mais Asher Tovad, le premier va apprendre, comme on a expliqué, de Asher Tovad, que quand le verset dit pour toute perte qui sera perdue, lui dit pourquoi le verset il a répété qu'il sera perdu, pour te dire que pour t'apprendre que moins que 15 centimes, c'est pas perdu. Oumar et l'autre, donc c'est Rabbi Yehuda, Nafkale, mi Umetsata, il apprend ça de Umetsata, pour te dire que moins que 15 centimes, c'est pas considéré comme si tu l'as trouvé. Bon. Alors maintenant on va rentrer dans une logique un peu Gemara.
Et qu'est-ce que ça va faire de savoir
Pas seulement ça, j'ai une meilleure question que ça que Gemara va poser. Gemara va dire, si apparemment on a deux parties dans le verset, et qu'on peut apprendre de chacune des parties du verset. Donc on va dire qu'il y a le premier qui s'appelle Tanakama qui a pris de la première partie du verset, et le deuxième qui a pris une seconde partie du verset, ça veut dire que qu'il y a forcément une partie du verset en trop ici. D'accord ? On est bien d'accord. Parce qu'il y en a un qui se débrouille avec le début du passage, que l'autre qui se débrouille avec la fin. Donc les deux, on n'en a pas besoin, c'est sûr.
Ça va nous dégager un enseignement.
Quand je répète le verset. Le verset il dit, bien sûr. Le verset il dit, ainsi tu feras pour toute la perte de ton frère, qui sera perdu de lui et que tu la trouveras. La fin du passage est en trop. Toute perte de ton frère, ok, ça je comprends. Qui sera perdu de lui, là c'est déjà en trop, et que tu la trouveras, bien sûr, et de quoi on parle alors? On parle d'une perte, si c'est une perte, on parle, mais je l'ai trouvée, si je ne l'ai pas trouvée, elle ne va pas venir toute seule. Donc la fin du verset est en trop, ça c'est sûr. Mais il y a deux parties dans la fin du verset qui sont en trop, la partie qui dit toute perte qui sera perdue de lui, et la deuxième partie qui dit et tu la trouveras. Donc la perspective côté... D'un côté, on a la perspective côté celui qui a perdu, et de l'autre côté, on a la perspective côté celui qui a trouvé. Donc il y a forcément une des deux parties qui est en trop. Laquelle, on ne sait pas. Alors, selon Tanakama, la perspective qui est en trop, c'est la fin du verset, parce que Tanakama a appris du début du verset, qui a dit « toute perte qui sera perdue de lui », et selon Rabbi Yehuda, c'est le début du verset qui est en trop. Donc pose la question à la Gemara. « Oulemad et nafkale me'asher tova de celui qui apprend. » Vous savez dans les mots ?
Non.
Alors, voilà. Je vais vous montrer j'ai oublié ton prénom. Mickaël. Vous voulez montrer où c'est ? Prends dans le côté français. Là. C'est plus facile.
Ouais, c'est là.
D'accord ? Voilà. Donc dans les mots. Ulman de Nafkale, mais Asher Tovad, celui qui apprend. Donc Tanakama qui apprend de Asher Tovad. Ça veut dire il dit que d'où il apprend qu'il faut qu'une trouvaille ait un minimum d'une valeur de 15 centimes. D'une prouta. Parce que le verset, il a dit, ainsi tu feras pour toute perte qui sera perdue. Eh bien d'accord ? Qui sera perdue. Alors dans ce cas-là, Ayumetsata Mai Avidle. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Umetsata ? Qu'est-ce qu'il fait avec la fin du verset qui dit, et tu le trouveras ? Rappelez-vous, il y a deux parties dans la fin du verset qui sont en trop. Ainsi tu feras pour toute perte de ton frère. Ok, jusqu'à là tout va bien. Ensuite, qui l'aura perdu ? Merci. Léonaz, premièrement. Deuxièmement, et que tu la trouveras. Ces deux parties sont en trop. Tanakama qui apprend son enseignement qu'il faut que la trouvaille ait une valeur minimum d'une prouta. Il apprend ça du début du verset, enfin du début de la fin, qui dit pour toute perte qui sera perdue, qu'est-ce qu'il fait avec la fin du verset ? À quoi elle sert ? Et que tu la trouveras. Bien sûr, je vais la trouver. Et je vais faire quoi avec alors ? Alors, l'agma répond, elle dit, Aou Mibaele, la fin du verset, on va l'avoir besoin, Likede Rabnaï, pour l'enseignement de Rabnaï. Dit Amar Rabnaï. Que Rabnaï a enseigné, il a dit comme ça, Umetsata. Qu'est-ce qu'on apprend de la fin du verset qui dit Umetsata, que tu la trouveras ? On apprend de là, Deata Leyade Mashma. On comprend que de quoi on parle, d'accord ? On comprend que Deata Leyade Mashma, ça veut dire que la perte est déjà venu dans la main de celui qui l'a trouvé. D'accord ? Ça veut dire quoi, hein ? Alors, le pasouk qui dit comme ça. Le pasouk qui dit, ainsi tu feras pour toute la paire de ton frère. Rappelez-vous, de quoi, qu'est-ce qu'on avait appris du mot de ton frère ? Qu'est-ce qu'on avait appris ? Ainsi tu feras pour toute la paire de là, on avait appris que quoi ? Qu'il faut qu'il soit juif. Que s'il n'est pas juif, on n'a pas l'obligation de rendre. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il dit ? Écoutez bien ce qu'il dit. D'accord ? Lui, il dit que Asher Tova Dumenu Metsata, ça veut dire que lui, il va plus loin que ça. Il dit que même si j'ai déjà pris la perte, j'ai déjà pris dans ma main, est-ce que j'ai l'obligation de la rendre au non-juif ? J'aurais pu penser que le non-juif, c'est seulement que j'ai pas l'obligation de prendre l'objet. Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit, on a dit qu'il y a une double interdiction. Et une première interdiction, c'est d'ignorer l'objet, de dire ouais, moi j'ai rien vu, hein. Encore pas vu, pas pris.
Oui.
D'accord ? Et une autre interdiction qui dit une fois que tu as pris, tu as l'obligation de rendre l'objet. Très bien. J'aurais pu penser que quand c'est une perte d'un goy, c'est-à-dire quand c'est un endroit que je pense statistiquement que ça a été perdu par un goy, j'aurais pu penser que je n'ai pas l'obligation de la prendre, donc je peux la laisser poser par terre, mais si je l'ai pris, j'ai l'obligation de la rendre. C'est pour ça qu'il nous dit non. Lui, il nous dit que umetsata, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même pour un juif, c'est seulement si tu l'as déjà pris. De là, je comprends que pour un goy, même si je l'ai déjà pris dans ma main, je n'ai pas l'obligation de rendre. Alors, Ulman, des Nafkale, mais umetsata, ayashortavad mayavidle. Maintenant, de l'autre côté. D'accord ? Donc on a deux parties dans le livre. Je sais pas si je marque toujours.
Il y a quand même une question, c'est que... Très bien. Comment on sait que c'est un objet ? Il y a des objets, c'est sûr que des définis, c'est un
objet. Tout à l'heure pendant la Khazara, j'irai vous chercher un feutre. Moi, je vous montrerai les deux parties du verset. Donc on a deux parties du verset. La première partie qui dit « Asher Tova du Menou, toute perte qui sera perdue de lui ». La deuxième partie qui dit « Et tu la trouveras ». Donc il y a forcément un des deux qui est en trop. Les deux sont en trop. D'accord ? Les deux sont en trop. Alors il y en a un des deux qu'on va utiliser pour apprendre qu'il faut au minimum d'une chavé prouta, d'une valeur d'une prouta. On va commencer par le premier. Si on va dire qu'on utilise le premier, Asher Tova du Menou, toute perte qui sera perdue de lui. Pourquoi on fait le pléonasme ? C'est pour nous faire travailler le public, pour dire attention. Qui sera perdu de lui, ça veut dire il faut qu'il ait minimum une prouta. Sinon, moins que ça, on considère que c'est pas perdu. Alors dans ce cas-là, à quoi te sert la fin du verset qui te dit, et que tu la trouveras, hein, à quoi elle sert la fin du verset ? On te dit, la fin du verset, elle te sert à autre chose. Elle te sert à l'enseignement de Rabnaï, qui dit que tout ça s'applique, que quand on te dit, et tu la trouveras, pour te dire que s'il s'agirait ici de la perte d'un goy, même si tu l'as déjà trouvé, donc tu te l'as déjà approprié, tu peux la garder. Parce qu'il y en a qui pensent pas comme ça, sache-le. Il y en a qui pensent que la perte d'un goy, t'as le droit simplement de l'ignorer. Mais une fois que tu l'as prise, il faut lui rendre. Ah oui, intéressant. Là, Rabnaï dit, moi j'apprends du verset qui lui dit, et tu la trouveras, pour te dire que même pour le juif, c'est seulement si tu l'as trouvé. Mais si c'est pour le goy, même si tu l'as trouvé, donc en d'autres termes, tu te l'as déjà approprié, tu peux la garder.
Mais ça, c'est une svara, parce qu'il n'y a rien qui prouve qu'il a raison.
Très bien. La svara, c'est du fait même qu'il y a un mot en trop, donc ça veut dire que oui, la Torah, elle veut qu'on apprenne quelque chose.
Apprendre quelque chose, mais lui, il dit ça, mais ça
pourrait être Rabnaï, bien sûr.
Oui, oui, oui.
T'as autre chose à apprendre ?
Non, mais si tu me le dis, je peux réfléchir, je trouve autre chose.
Oui, tu peux réfléchir à autre chose, c'est pas de problème. Oui, pas de problème. Maintenant, l'autre côté. Rappelez-vous Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit ? Rabbi Yehuda, d'où il a appris qu'il faut que ça ait un minimum la valeur d'une prouta ? De quelle partie du verset, monsieur Bismuth ?
La dernière.
Allez, on se réveille.
Et tu le trouveras.
D'accord ? Donc dans ce cas-là, on a toujours le pléonasme qui est en trop. Pour toute perte qui sera perdue de lui. À quoi il sert ce pléonasme ? À quoi il sert ? Alors, la Gemara dit, Ulmaï, Denaf, Kalem, Umetsata, Rabbi Yehuda, qui apprend qu'on n'a pas l'obligation de rendre une perte de Umetsata, qui a moins d'une prouta de Umetsata, Aïe, Asher Tovad, Maya Vidé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait avec le pléonasme de Asher Tovad pour toute perte qui sera perdue? La Gemara répond, elle dit, Mibaele, Likde Rabbi Yochanan. Lui, il a besoin de ça pour liquider Rabbi Yochanan, comme la vie de Rabbi Yochanan, pour la dracha de Rabbi Yochanan. D'amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yochanan a dit, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Minaim la Veda Sheshtafana'a. D'où on sait qu'une perte, donc rappelez-vous, quel mot est en trop ici maintenant, c'est le début du verset. La partie du verset qui dit, Asher Tova Mimenu qui sera perdu de lui. Donc il dit comme ça. D'où on sait qu'une perte Sheshtafana'a qui a été, comment il traduit Sheshtafana'a? Qui a été
emporté,
voilà, qui a été emporté par un fleuve. D'accord ? Oui, on l'a déjà fait, exactement. Donc, chez Shtafanahar, qui a été emporté par le fleuve, chez Imuteret, même s'il a un siman, qu'elle est permise à celui qui l'a trouvé et qu'on n'a pas l'obligation de la rendre, chez Neymar, comme c'est écrit, Vechen ta'ase lechol avedatarira asher tova dimenu. Ainsi tu feras pour toute perte de ton frère qui sera perdu de lui. Ou metsata, tu la trouveras. Lui, il dit comme ça. Il dit qu'on est, on a ici un mot entre, prends-te d'ici pour toute perte qui sera perdue de lui, donc le pléonasme.
On parle de ça.
Pour te dire, chez Avudam, imenu, umtsuya, et celle que la dame. Écoute, regardez comment il utilise le verset. Il dit comme ça. Ainsi tu feras, pour toute perte de ton frère, qui sera perdue de lui.
Mais pas des autres.
Mais pas des autres. Donc c'est une perte standard. Quand j'ai perdu quelque chose par terre, elle m'est perdue à moi, mais elle n'est pas perdue des autres. Alors que quand je l'ai perdue dans un fleuve, elle est perdue de moi et elle est perdue pour tout le monde. Parce que personne ne va aller chercher en bas. Bien sûr qu'il y aura un cas extrême, quelqu'un peut-être qui ira faire de la plongée, qui ira trouver, mais ma boule. D'accord ? Il n'est pas. Dans la normale des choses, on ne fait pas. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ? Rabbi Yochanan, il a trouvé quelque chose à nous apprendre dans la première partie du verset. Ainsi tu feras de toute la perte qui sera perdue de lui.
Donc c'est pas dans un fleuve.
Donc, parce que normalement, d'accord, ça coule de source qu'il est perdu.
Non, bien sûr.
Pourquoi l'a rajouté de lui ?
Pourquoi de lui ? Pour se dire qu'on ne parle que de quelque chose qui a été perdu de lui, mais pas quelque chose qui a été perdu du monde entier.
Donc c'est pas dans un fleuve.
Voilà, donc c'est pas dans un fleuve. Donc Rabbi Yochanan a utilisé la première partie du verset. Donc Yatsa Zo, donc on exclut cette perte-là, la perte qui a été, donc comme vous avez dit, par le fleuve, qui a été emportée par le fleuve, chez Avudam Imenu, Venam Tuyetakoladam, qui est perdue de lui, mais qui n'est pas non plus courante chez les autres hommes, c'est-à-dire qu'elle est perdue de tout le monde. Veidar. Ok, alors très bien. Alors Rabbi Yehuda maintenant. Aderabna Yuminale. Rabbi Yehuda, d'où il sait ce que Rabbi Yehuda a dit. Parce que maintenant c'est intéressant, parce que maintenant on va essayer de faire que, on va faire de l'optimisation maintenant. Ça veut dire, on a eu deux avis. On a eu l'avis de Tanakama, l'avis de Rabbi Yehuda. Tanakama a appris qu'il faut au minimum une fruta de la première partie du verset qui dit toute perte qui sera perdue de lui. Donc il a appris du pléonasme. Rabbi Yehuda a appris de la deuxième partie du verset qui dit et tu le trouveras. Donc il y a forcément un des deux qui était en trop. On va démarrer par Tanakama. Tanakama, il t'a dit qu'est-ce qu'il fait avec la fin du verset? La fin du verset Umetsata. Il apprend que c'est seulement pour un juif qu'on a l'obligation de rendre, même si on l'a trouvé. Même si on se l'est déjà approprié. Mais si ce sera un goy, même si on se l'est déjà approprié, on n'a pas l'obligation de rendre. Ok. Maintenant, on passe de l'autre côté. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit ? Rabbi Yehuda lui dit qu'il apprend qu'il faut au minimum une prouta de la fin du verset. Qu'est-ce qu'il fait avec le début du verset ? Il apprend que, Asher Tova dit Menou, ça veut dire qu'il faut que la perte soit perdue de lui. De là, on comprend que si elle est perdue du monde entier, il n'a pas l'obligation de la rendre. Très bien. Rabbi Yehuda, alors, d'où il apprend le din de Rabnaï ? D'où il apprend ce que Rabnaï a dit ? Que s'il s'agirait d'un goy, même si on l'a déjà trouvé, on n'a pas l'obligation de rendre. Puisque lui, il utilise déjà le mot umetsata pour nous apprendre que il faut au minimum une valeur de truta. Répond, nafkale mais umetsata. Lui, il dit que on apprend ça du mot umetsata, ça veut dire avec un vav. D'accord ? C'est-à-dire quoi avec un vav ? C'est-à-dire que Rashi explique que le fait qu'on dit umetsata et il l'a trouvé au passé, d'accord ? Pourquoi tu dis au passé ? Pourquoi tu dis pas au présent ? De là, je comprends qu'il y a autre chose à apprendre encore. Alors, je finis dans les mots, il y a encore quelques lignes, après je vous mets au tableau, vous allez voir, on va tout comprendre. Veidar, et l'autre avis. Ad Rabbi Yochanan Menale, l'autre avis, Tanakama, d'où il sait ce que Rabbi Yochanan a dit, que si un fleuve, il est emporté par un fleuve, on n'a pas l'obligation de le rendre. Nafkale, mimenu, il apprend ça du mot mimenu. Veidar, mimenu, le mashmale. Alors, donnez-moi quelques secondes, je vais chercher un feutre. On a ici plusieurs mots en trop dans le verset. D'accord, on va reprendre le verset. On va essayer d'analyser ensemble. Bon. On reprend le verset, regardez.
Reprenons le verset.
Le verset, il est dans le côté Gemara. Donc, le début du verset, bon, c'est assez basique. Vechenta se la chamoro, ainsi tu feras pour son âne. Vechenta se le simlato, ainsi tu feras pour son vêtement. Vechenta se le chola vadatachicha, et ainsi tu feras pour toute perte de ton frère. Ça, la semaine dernière, on a expliqué pourquoi on avait besoin de citer ces trois cas, le cas de l'âne, le cas du vêtement et le cas de la perte. Ça, c'est la semaine dernière. Ok. Ensuite, tu continues le verset.
Normalement, ils devraient s'arrêter là.
Voilà, normalement, ils auraient dû s'arrêter là. Maintenant, tout le reste est en trop. Non, pas tout le reste, les trois derniers mots ne sont pas en trop. L'échol avedat achicha pour toute perte de ton frère, asher tovad mimenu, qui sera perdu de lui. Donc là, déjà, combien de mots on a en trop ici ? D'accord ? Toute perte qui sera perdue de lui. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a en trop ici ? D'abord, qui sera ? Donc, qui sera perdu, ça c'est en trop, c'est un pléonasme. Toute perte, je répète en français, toute perte qui sera perdue de lui. Donc, premièrement, le mot qui sera perdu est en trop. C'est un pléonasme. Deuxièmement, de lui. Qui sera perdu de lui. De qui ? De lui. Bien sûr, qu'il va être perdu. Et de qui d'autre ? D'accord ?
Qu'il lui appartenait
donc,
pas
on a une deuxième chose qui est en trop. Donc, deuxième mot qui est en trop. On continue. Umetsata et tu le trouveras. Bien sûr, et si c'est une trouvaille, bien sûr je vais la trouver.
Puisque le cas seulement si on le trouve.
D'accord. Qu'est-ce qu'il dit le verset dans tous ces cas-là? Ça c'est plus en trop. L'otuchal l'italem, tu n'auras pas le droit de l'ignorer. Ok. Donc on a ici trois éléments qui sont en trop. On a Asher Tovad, toute paire qui sera perdue, Mimenu, de lui, ou Metsata, tu la trouveras. Alors vous comprenez que le mot de lui, c'est pas vraiment sûr qu'il est en trop. Parce que si déjà tu dois dire qu'il sera perdu, on peut facilement rajouter de lui. Donc c'est pas forcément qu'on a trois éléments en trop, c'est peut-être qu'on en a que deux. Vous suivez? D'accord? Peut-être qu'on a que deux éléments en trop. Parce que bon, si tu dis qu'il sera perdu, alors bon, qu'il sera perdu de lui, ça va, c'est pas la fin du monde. Alors.
C'est pas une répétition.
C'est une répétition.
Non, mais c'est lourd.
D'accord? C'est une répétition, vous avez raison. Mais, alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas trois éléments en trop, il n'y en a que deux. Le pléonasme, il existe toujours. Mais c'est pas deux fois un pléonasme, c'est une fois. Tout élément qui sera perdu de lui. Bon.
Mais de lui, ça nous apprend quoi que...
Très bien. Alors, c'est pour ça que, voilà, justement. Donc, on va avoir une marque ici. Est-ce qu'on peut utiliser, d'accord? Attendez, j'ai pas fini encore. On a aussi, à part ça, autre chose. Ou Metsata en hébreu. Ou Metsata avec un vav. Ça veut dire que c'est au passé. Et tu l'as trouvé. Que tu le trouves.
Pas qu'en plus,
d'accord, écoutez bien. Ou Metsata, ça veut dire et que tu la trouves. Au passé. D'accord? Ou Metsata, que tu l'as trouvé, ça veut dire au passé. Donc voilà encore un autre élément en trop dans le verset. Pourquoi, enfin, qui n'est pas compréhensible, pourquoi parler au passé, puisque certainement c'est du présent. Et que tu le trouves. Toujours la Torah, vous avez remarqué, toujours la Torah, elle part ou au futur ou au présent. En général, c'est une règle générale. La Torah, elle part toujours ou au présent ou au futur. Là, la Torah, elle parle au passé. Alors qu'elle n'a pas besoin de parler au passé. Et tu l'as trouvé. Pourquoi tu l'as trouvé? Je le trouve. Parlons au présent. Donc on a plusieurs éléments ici qui sont en problème dans ce verset. Et donc, on va essayer d'analyser tous ces éléments-là. On va commencer par l'avis de Tanakama. Qu'est-ce qu'il dit Tanakama? Tanakama nous a dit que d'où il apprend que un objet doit avoir minimum la valeur d'une prouta, un objet qu'on trouve doit avoir minimum la valeur d'une prouta, c'est-à-dire la valeur de 15 centimes d'euros, il apprend de la première partie du verset. Qu'est-ce qu'il dit la première partie du verset? Asher Tova dimenu qui sera perdu de lui. Donc le pléonasme, à quoi il sert? Pour te dire que c'est seulement un objet qui est perdu de son propriétaire. Mais si c'est un objet qui n'est pas perdu de son propriétaire, par exemple, moins de 15 centimes d'euros, t'as pas besoin de le rendre. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait de la deuxième partie du verset qui dit « Et tu la trouveras ?» Tanakama, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend, on a dit, au Metsata, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend que si c'était perdu par... Pourquoi on te dit « Et tu le trouveras ?» Pour te dire que c'est seulement si c'est la perte d'un juif, que même si tu l'as déjà trouvé au passé, il faut la rendre. Mais si c'est pas la perte de mais si c'est pas la perte d'un mais si c'est la perte d'un goy, même si tu l'as déjà trouvé, t'as pas besoin de la rendre. Très bien.
Mais tu peux l'ignorer ou pas?
Tu peux l'ignorer, tu peux la prendre, tu fais ce que
oui,
tu veux.
Oui, mais il n'y a pas écrit.
Mais c'est pas marqué, tu peux l'ignorer.
Eh bien,
ou pas.
Parce que le verset te dit ainsi tu feras pour toute la perte de ton frère et que tu l'auras trouvé. Ça veut dire quoi? Toute la perte de ton frère et tu l'auras trouvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'était pas la perte de mon frère, même si je l'ai déjà trouvé, je peux le garder.
Ça veut pas dire que tu peux l'ignorer.
Non, ça veut être sûr. L'ignorer, c'est sûr, ça.
D'où c'est sûr?
Parce que ça, le verset, il le dit.
Tu l'ignores, c'est à la fin, là.
Non.
Tu ne pourras pas l'ignorer, c'est que pour le juif.
D'où tu sais?
C'est le verset, il le dit. Le Torah l'italien, tu ne pourras pas l'ignorer. On parle d'un juif. Mais lui, ce qu'il te dit, c'est que même si tu l'as déjà trouvé,
t'es pas obligé
de le rendre.
Oui, enfin, comme ça suit la... Ça...
Voilà, bon. Ça c'est très bien. Maintenant, il y a encore autre chose à apprendre du verset, c'est quoi? C'est d'où on sait que si ça a été emporté par un fleuve, on n'a pas l'obligation de rendre, d'après ce premier avis-là. Alors d'où il apprend ça? Il apprend ça du mot mimenu. Toute perte qui sera perdue, donc on a déjà un pléonasme, si on est bien d'accord, de lui. Ah, il dit, moi d'après moi, de lui c'est encore en trop. Qu'est-ce que j'apprends de lui? Pour te dire seulement si c'est perdu de lui, il faut le rendre, mais que c'est pas perdu du monde entier. Mais si c'est perdu du monde entier, par exemple c'est dans le fleuve, là il faut pas rendre. Donc lui, il a trouvé trois éléments en trop. Trois éléments. Toute perte qui sera perdue, ça il a appris. Donc qu'est-ce qu'il a appris du mot qui sera perdu? Il a appris que ça veut dire qu'il faut qu'il soit perdu, c'est-à-dire que moins d'une prouta, pas besoin de rendre. De lui, ça veut dire que le fleuve c'est pas bon. Et tu le trouveras, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'était un goy, de là on apprend, si c'était un goy, même si tu l'as déjà trouvé, t'as pas besoin de rendre. Ça c'est la manière de voir les choses de Tana Kama. Maintenant on va passer à Rabbi Yuda. Rabbi Yuda il dit non. Rabbi Yuda il dit, moi... D'où j'apprends qu'il faut le minimum d'une prouta, j'apprends de la deuxième partie du verset. Deuxième partie du verset.
Tu la trouveras.
D'accord? Exactement, et que tu la trouveras. Donc de qu'est-ce que j'apprends de cette deuxième partie du verset et que tu la trouveras? C'est de là-bas que j'apprends que il faut que ce soit quelque chose qui est trouvable. Moins que 15 centimes d'euros, c'est pas trouvable. C'est quelque chose qui... On considère que ça n'a aucune valeur. Très bien. Alors, pour Rabbi Yehuda, on a deux problèmes ici. Tout d'abord, d'où Rabbi Yehuda, il sait qu'une terre qui a été emportée par un fleuve, on a l'obligation de rendre. Qu'est-ce que vous dites? D'où Rabbi Yehuda, il sait?
Page bien avant, là.
Seconde, mais d'où on sait? Encore une fois, Rabbi Yehuda utilise que la fin du verset, donc il lui reste encore des éléments.
Ah, parce que c'est marqué perdu de lui.
Voilà, parce que, exactement, parce que c'est écrit tout ce qui sera perdu de lui. Et lui, oui, justement, Rabbi Yehuda, lui, il apprend qu'il faut un minimum d'une prouta de la deuxième partie du verset. Qu'est-ce qu'il fait avec la première partie? Avec la première partie, il apprend que si c'est emporté par un fleuve, tout ce qui sera perdu de lui, ça veut dire que si c'est emporté par un fleuve, c'est pas le cas.
Parce que ça serait perdu tout le
monde. Mais ce qui est intéressant chez Rabbi Yehuda, c'est que Rabbi Yehuda ne découpe pas la première partie du verset en deux. Il ne dit pas que qui sera perdu, premièrement, petit A, de lui, petit B. Lui, il dit non, qui sera perdu de lui, c'est une seule phrase. C'est le mot, il est en trop. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda avec ça? Qui sera perdu de lui? Il dit que de là, on apprend que si c'était emporté par un fleuve, j'ai pas besoin de le rendre, même si ça a un sima. Il nous reste encore autre chose à apprendre. D'où on sait que même si c'est, si ça a été perdu d'un goy, même si ça a la valeur, même si je l'ai déjà trouvé, j'ai pas l'obligation de le rendre. Puisque Rabbi Yehuda utilise déjà la deuxième partie du verset, le mot Umetzat, alors d'où il va apprendre? Suivez? D'où il va apprendre? Très simple, Rabbi Yehuda, il a une technique. Rabbi Yehuda, il dit, moi c'est très simple, ma réponse est, parce que le mot Umetzat a été écrit au passé. Et il l'a trouvé. Ouais. Alors qu'on aurait pu l'écrire au présent.
Oui. Alors
pourquoi tu l'as écrit au passé? C'est certainement que la Torah veut apprendre quelque chose, même dans... Rabbi Yehuda, mais ça Nakama n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yehuda, il pense que même dans le temps que la Torah a utilisé pour formuler sa phrase, on peut apprendre quelque chose. Que si elle aurait dû utiliser un autre temps, elle aurait dû parler au présent ou au passé, et qu'elle parle au passé, de ça même, c'est un élément, d'accord, duquel on peut apprendre une dracha, on peut apprendre quelque chose, pour te dire que la Torah me cache un message ici. Quel message la Torah me cacherait? Que tout ça s'appliquera que pour un juif, pas pour un autre.
Parce qu'il y a un vav. Bah c'est comme la première...
Oui, c'est comme la première, pas de problème. D'accord, bah c'est...
Non mais d'accord, mais...
Ça ne peut pas nous enseigner tout simplement une règle pour ceux qui se mettent en quête d'un objet qui n'est pas encore trouvé, mais qui sont des chasseurs de trésors.
Oui. Et c'est pas de problème.
Si tu enlèves le fait que tu l'as...
Est-ce que l'objet est trouvable? Standard.
Pas encore.
Non.
Voilà, un bonhomme, il se met à la recherche d'un trésor qui était dans le Titanic.
Très bien. Où il va le trouver?
Il est trouvable, mais il n'est pas accessible à personne.
Très bien. Trésor qui a été perdu par Titanic, d'accord? C'est un trésor qui est perdu. C'est un trésor qui est perdu du monde entier.
Voilà, donc il l'a pas trouvé.
C'est pas de
lui. Il s'est mis à la recherche.
Eh bien, il n'y a pas de problème. Parce que c'est pas perdu que de celui qui l'a perdu. C'est perdu du monde entier. Le monde entier, personne n'ira chercher au fond de la mer. Donc c'est perdu du monde entier. Donc maintenant on comprend bien ce qu'il a dit, comment il s'appelle, Abaye. Après, parce qu'on aura Rava après. Car rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Abaye a dit, il n'y a aucune différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda. La halakha, c'est la même pour les deux. La seule différence sera comment ils vont utiliser le verset. Mashmaout Dorshin Ikabenayu, comme il avait dit. On l'a vu là, le résultat est le même, sur tous les plans. Les deux avaient trois choses à apprendre du verset, et les deux ont appris les trois choses du verset. Mais ils n'ont pas utilisé les mêmes techniques.
D'accord?
Et les deux tiennent. Ouais. Vous verrez dans la Khazara, vous réviserez, on mettra sur le tableau votre attaché, vous verrez que vraiment, c'est très fort de voir comment les deux ont appris la même chose du verset, même halakha, d'accord, mais ils ont utilisé des techniques différentes. Ils n'ont pas utilisé un seul élément le même que l'autre.
Ouais, c'est quoi leur truc? C'est que c'est Wara Kodesh, parce que d'un vav déduire ça, il n'y a aucune raison.
Si, ouais. Voilà,
Wara Kodesh.
C'est ce qu'on appelle la drasha.
Exégèse.
Voilà.
D'accord, ce qu'on appelle la drasha. C'est que quand Takadosh Baruch dans la Torah, quand Akadosh Baruch dans la Torah, il va formuler une phrase d'une certaine manière alors qu'il aurait pu la formuler d'une autre manière, c'est déjà un élément pour dire que certainement Dieu nous cache un message par ici. Un message qui ne peut être compris que par les Chachamim. Ça s'appelle une dracha.
Même pas compris, donné.
Qui peut être déduit.
Reçu.
Déduit.
Reçu. Il déduit rien avec
non,
le vav, tu
peux rien déduire.
Que le vav. Avec le vav, tu ne peux pas déduire pour le...
Bien sûr qu'on déduit avec le vav.
D'accord. Oui,
c'est un temps.
Parce que lui, il dit comme ça, c'est très simple. Il te dit, puisque tu me le dis au passé...
Oui, oui.
Ça veut dire que de là je comprends que la perte est déjà arrivée dans ta main.
Ça c'est bon ça.
D'accord,
c'est
ça que j'ai, bien.
J'excuse.
Ça veut dire que de là je comprends que la perte est déjà arrivée dans ta main.
Oui.
Il faut bien comprendre le verset. Regardez là encore une fois le problème qu'on a dans le verset. C'est que dans le verset il te dit, ainsi tu feras pour toute perte de ton frère, d'accord? Donc pour toute perte de ton frère, qui sera perdu, de lui, et que tu l'auras trouvé. Donc c'est un passé. Tu ne pourras pas l'ignorer. Est-ce que vous voyez un problème dans ce que je viens de dire? C'est quoi le problème, ce que je viens de dire?
Non, l'usure, c'est normal.
D'accord. Toute perte que tu auras trouvée, donc si je l'ai déjà trouvée, c'est-à-dire que je me suis déjà approprié. Alors qu'est-ce que tu me dis, tu ne pourras pas l'ignorer?
Oui.
Tu comprends pourquoi le passé pose problème?
Il y a un problème, oui.
Voilà. Donc Rabbi Yehuda te dit, du fait même que la Torah a employé un passé alors que ça ne rentre pas dans le contexte du verset, c'est pas un passé ici, c'est un futur. Tu ne pourras pas l'ignorer.
Oui.
C'est-à-dire que je ne l'ai pas encore pris, je suis avant de passer. D'accord? Ça veut dire que du fait que la Torah, apparemment, il y a un problème dans la manière comment le verset est formulé. On te dit, tout objet que tu auras trouvé, donc si je l'ai trouvé, c'est-à-dire qu'il est dans ma poche, tu ne pourras pas l'ignorer, mais c'est trop tard, il est déjà dans ma poche.
Oui.
De là, j'apprends que la Torah veut me cacher un message, pour te dire que s'il s'agirait d'un goy, toute perte de ton frère. Mais de là, je comprends que s'il s'agirait d'un goy, non seulement je peux l'ignorer, et même si je l'ai déjà approprié, je peux la garder.
Ouais.
Tu comprends? C'est pas
un... Ah oui, alors là, c'est différent, là. Parce que là, il rajoute, c'est comme s'il rajoutait des mots qui
vont. Bien sûr, rajoute des mots. Mais il a réussi à trouver ça dans le passé.
Ouais.
C'est pas du Rakhodesh, ça rentre dans les mots.
Si tu rajoutes des mots, mais à la limite, tu pourrais peut-être en rajouter d'autres.
Alors, ça, c'est la manière de voir les choses de Rava. Alors, rappelez-vous, la différence qu'il y avait entre Rabbi Yehuda et Tanakama, ils ont appris la même chose, mais Tanakama a appris ça de la première partie du verset, donc il a mis la perspective côté perdeur, côté perdant, celui qui a perdu, et l'autre, il a mis côté trouveur, celui qui a trouvé. Donc, le premier, il a dit, on a mis la perspective côté perdant, enfin celui qui a perdu, pour te dire que toute perte qui sera perdue de lui, ça veut dire qu'on considère que moins que 15 centimes d'euros, c'est pas perdu. C'est comme si que tu l'as pas vu. L'autre, il a mis la perspective côté trouveur, pour te dire quoi? Pour te dire que moins que 15 centimes, c'est pas considéré comme si tu l'as trouvé. Donc, on a posé la question, quelle différence il y a entre les deux? A priori, on n'a pas trouvé de différence. La seule différence, c'est la manière comment ils ont fait tourner le verset, mais il n'y a pas de différence de la halakha. Rabba va nous trouver une différence de la halakha.
Il y a quand même un troisième truc là.
Oui.
On parle de la valeur, mais il y a peut-être des valeurs affectives.
Ah.
Quand on voit une photo...
On y arrive. Attendez. On va voir mieux que ça.
Bon.
Rabba a dit, moi, Rabba, il se tourne vers Abaye, donc Rabba et Abaye, c'était des contemporains. Hein. Il dit, toi, Abaye, tu as dit qu'il n'y a pas... Je sais pas où on est dans le français.
Rabba
Amar, voilà, juste en haut. Alors, Abaye, donc, n'a pas trouvé de différence à l'Afrique, on est bien d'accord. Abaye a seulement trouvé une différence, comment on étudie le verset, mais différence à l'Afrique, il n'y en a pas. Rava dit, moi j'ai trouvé une différence à l'Afrique entre les deux. Laquelle? Pruta Sheuzla et Kabenayo. Il y aurait une différence dans l'Alakha entre les deux. Dans le cas de Pruta Sheuzla, s'il y a une Pruta, d'accord, c'est-à-dire si on a une perte qui valait 15 centimes d'euros, quand elle a été perdue, mais le temps qu'elle a été perdue, entre le temps qu'elle a été perdue et qu'elle a été trouvée, elle a perdu de valeur. Ça veut dire que quand moi je la trouve, je vois qu'elle a été frappée. D'accord, apparemment je vois que c'est quelque chose qui avait une valeur, mais maintenant elle n'a plus une valeur de prouta. Où on met la perspective? Sur celui qui l'a perdu ou sur celui qui l'a trouvé? C'est possible, hein,
oui,
vous savez.
Celui qui a perdu, lui, il dit, j'ai perdu quelque chose pour plus.
Par exemple, vous perdez un livre dehors dans la rue. Est-ce qu'il vaut une prouta? Bien sûr. Imaginez-vous que le livre prend la pluie. En fin de compte, après, il est complètement trempé. On ne peut rien faire avec ce livre. On peut dire qu'à ce moment-là, il n'a plus la valeur d'un kouta. Mais il avait la valeur d'un kouta quand il était perdu.
Donc lui, il n'a pas renoncé.
Donc, alors attendez.
Et l'autre, quand il va le trouver,
ça dépend où on met la perspective. Si on met la perspective côté perdant. Celui qui a perdu, il a perdu une kouta. Et moi, je vois que c'est un objet qui valait une kouta.
Plus qu'une kouta.
Attention.
Quoi,
c'est pas que je trouve 5 centimes d'euros par terre. Je vois que c'est un objet qui valait de l'argent, mais qu'apparemment, il a été frappé. Il a reçu un
coup.
Dégradé. Très bien. Donc si je mets la perspective côté perdant, je dis le perdant il a perdu une prouta. Il a perdu plus qu'une prouta, donc il faut lui rendre. Mais si je mets la perspective côté trouveur, il a trouvé une poubelle, il a trouvé 2 centimes d'euros ici. Donc ça, Rava nous dit, voilà la différence qu'on pourrait avoir. Regardez comment Rava décortique. Rava dit que l'endroit du verset duquel on va apprendre, si on va apprendre du début du verset, si on va mettre la perspective côté perdant ou côté trouveur, ça va changer quelque chose. Pruta chez Uzla et Kabenayu, on aura une différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda, dans le cas d'une Pruta chez Uzla qui a perdu, donc quelque chose, un objet qui avait la valeur d'une Pruta, mais chez Uzla, ça veut dire qu'au moment où on l'a trouvé, elle a perdu sa valeur. Mais attention, je vois, c'est moi qui trouve l'objet, je vois que l'objet valait avant une Pruta. Mandamar, Meacher Tovad, Ika. Donc celui qui a dit que Meacher Tovad, qu'on apprend de la première partie du verset, qu'il a mis la perspective côté perdant, donc, toute perte qui sera perdue, dans ce cas-là, Ika, dans ce cas-là, il y a l'obligation de rendre la perte. Pourquoi? Parce que, au moment où elle a été perdue, ça avait la valeur d'une Pruta. Ou Mandama, mais ou Metsata. Alors que la vie qui dit qu'on apprend ça de Umetsata, donc de la deuxième partie du verset, on a mis la perspective côté trouvère. Dans ce cas-là, l'Eka, il n'y a pas d'obligation de rendre l'objet, puisque au moment où j'ai trouvé, il n'y a pas de Vanim Kuta. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit Rava? Ça vous va? Est-ce que ça vous va, ce que Rava
dit? D'après, ils disent que c'est rejeté. Alors.
Bien sûr, c'est rejeté, mais est-ce que dans votre tête, pour l'instant, c'est rejeté?
Non.
A priori, donc en d'autres termes, Rava ici, il est en train d'attaquer Abaye. Hein, il dit Abaye, toi, Abaye, tu m'as dit qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence à l'Achrique, c'est qu'une différence comment on utilise le verset. Rava, il dit, moi, je trouve une différence à l'Achrique. A priori, il a raison. Il y a une différence à l'Achrique. Que le fait de changer la perspective côté trouveur ou côté acheteur, côté trouveur ou côté perdant, ça change. Il y aurait une différence, d'accord. Il y aurait un cas dans lequel il y aurait. Donc ça s'appelle un Ika Benayou. Quand il y aurait un. Alors, il faut savoir dans la Gemara, très souvent, quand deux personnes disent une chose qui peut-être est la formule différemment, mais que dans les faits, la conclusion est la même, la Gemara pose la question, elle dit quelle différence entre les deux. Ça veut dire on cherche un cas dans lequel, si on suit le premier avis, on dirait blanc, si on suit le deuxième avis, on dirait noir. Et Abaye a dit, moi je pense qu'il n'y a pas de différence. Alors Rava dit, si, il y a une différence. Alors la Gemara a dit non. La Gemara a dit, on n'est pas d'accord avec ce que Rava a dit. Ou le man de Amar Asher Tova Abéin, Anumetsata, a dit non. Il dit, ici, on suit le Tanakama qui a dit que d'où on sait qu'une fruta, d'où on sait qu'un objet qui n'a pas une fruta n'a pas l'obligation de rendre, il apprend ça de la première partie du verset. Qui dit que Asher Tovad, toute perte qui sera perdue de lui. Ah, Beinan, Umetsata. D'accord ? Mais on a besoin aussi Umetsata, ça veut dire que. On va mettre la perspective côté Tanakama. D'accord ? Côté Tanakama, il y a un verset. Qu'est-ce qu'il dit le verset ? Toute perte qui sera perdue de lui. Et il le trouvera. Vous me suivez ? Toute perte qui sera perdue de lui, et il le trouvera. Donc, on a deux éléments dans le verset. Toute perte qui sera perdue de lui, et il le trouvera. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que, au moment où ça a été perdu, ça a la valeur d'une fruta. Et il faut que, bonjour, et au moment où ça a été trouvé, il faut aussi que ça a la valeur d'une fruta. Vous me suivez ? Mm-hmm. Toute perte qui sera perdue de lui, et il la trouvera. Pourquoi on ne dit pas que, la Gemara pose la question, elle dit, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis ici. Même Tanakama qui a dit qu'on apprend dans la première partie du verset, qui dit que toute perte qui sera perdue de lui. Ok. Donc c'est-à-dire qu'il a mis la perspective côté. Il a mis la perspective côté. Toute perte qui sera perdue de lui, Tanakama a mis la perspective côté.
Perdeur.
Perdant. Bon, perdant, je sais pas si on dit perdant en français.
Mais perdant, ça c'est pas ça non plus.
Hein. Oui, c'est pas un perdant, oui.
Bon, c'est le perdeur.
Celui qui a perdu l'objet.
D'accord.
Le trouveur et le perdeur.
Voilà. Perdeur. Côté perdeur. Je sais pas si ça se dit en français, mais bon. Alors, côté perdeur. D'accord ? Mais ça ne change pas que le verset, il y a une suite dans le verset. Qu'est-ce qu'il dit le verset ? Toute perte qui sera perdue, d'accord ? Et qu'il la trouvera. Ça veut dire que la perspective a été mise côté perdeur et côté trouveur. Donc pourquoi, en d'autres termes, on pose la question à Rava, on dit, mais attends deux secondes, c'est quoi toute cette histoire que tu es en train de me raconter, la perspective côté perdeur, côté trouveur ? Mais le verset, il y a un seul verset pour tout le monde. Le verset a mis la perspective chez les deux. Donc ça ne marche pas ton truc. Pourquoi tu me fais des différences de perspective ici ? Donc ça nous dérange, qu'il dit Rava ici. Et là seulement, d'accord ? Agmar répond et dit, Fruta chez Ukraï Kabenayou. Il dit non. Agmar a dit, en vérité, ce que Rava voulait dire, c'est pas ça. En vérité, on n'aura pas une différence dans le cas d'une Fruta qui a perdu de valeur, mais on aura une différence dans le cas de quelque chose qui a pris de la valeur. Ah. Là, on arrive à votre cas, M. Bismuth. Un petit peu. Ça veut dire que la personne a perdu quelque chose, qui ne valait pas une Fruta. D'accord ? Non, attendez. Au moment où elle a perdu, ça ne valait pas une Fruta. Mais après. Les jours qui suivent, on apprend que par exemple, que cet objet-là a pris de la valeur. Et que tout d'un coup, ça vaut une fruta.
Un disque de...
D'accord.
Avant, il y a rayé. Un jour, il valait que dalle, et on d'accord. Dit, ah, attention
d'accord. Fruta chez Ukraï Kabenayou. Écoutez bien la différence. C'est là, dans ce cas-là, on aura la différence. Fruta chez Ukraï Kabenayou, on aura la différence dans un cas d'une fruta qui a pris de la valeur. C'est-à-dire un objet qui n'avait pas la valeur d'une fruta. Donc au moment où il a été perdu, est-ce qu'il avait la valeur d'une fruta ? Non. Au moment où il a été trouvé, il avait la valeur d'une fruta.
C'est pour ça peut-être que dans
Attends, on va analyser d'abord.
La phrase précédente, il y a un passé, il y a un futur.
Parce qu'il a pris de la valeur. Dans le marché, ça a pris de la valeur. Hein, c'est des choses qui...
Il y a une pénurie.
Ah, il y a un événement qui a fait qu'entre-temps.
Un événement qui a fait qu'entre-temps.
Il y a le cas. Il y a la pièce de 1 centime des années 70, qui est petite comme une tête de punaise. Il y a écrit dessus 1 centime de francs. D'accord.
Elle a été déclarée pièce de collection.
Donc tu la trouves dans la rue, tu dis que c'est 1 centime de franc. En plus on est démonétisé. Tu comprends ? Moi j'en ai une, non, j'aime bien. Elle est vraiment très petite. Et si tu la trouves dans la rue, si tu la perds, tu te dis 1 centime. Mais quelques jours après, la Banque de France va annoncer qu'elle est en numismatique, elle est cotée 50 euros. Ça y est.
C'est fini.
Comment ?
Vous comprenez ? Mais attention, il faut bien faire la différence, c'est-à-dire qu'au moment où je l'ai perdu, c'était un centime.
Ah oui.
Attention. Pas qu'au moment où je l'ai perdu, j'ai perdu une pièce de collection.
Bien sûr.
D'accord. Donc là, il y aurait, là, écoutez bien la différence. Il y aurait une différence dans ce cas-là. Si c'est quelque chose qui n'est pas la valeur d'une prouta, d'accord, au moment où je l'ai perdu, mais qui a pris la valeur d'une prouta entre-temps. Alors, mais, attends, deux secondes. On va d'abord la différence.
Ça explique pourquoi, là.
Mandama.
Ça explique pourquoi là, on a ce problème avec le passé.
Oui, attends.
Le passé après le
futur. On va arriver tout de suite. Maintenant, ça répond pas au passé, au futur. Parce que de toute façon, le verset, il a un problème.
Oui, même.
Le verset est mal formulé. Parce que tu me dis toute perte qui sera perdue et que tu auras trouvé, donc c'est-à-dire qu'elle est dans ma poche,
donc,
d'accord,
elle ne pourra pas une prouta encore.
Deux secondes, non. Toute perte qui sera perdue et que tu l'auras trouvé, donc si je l'ai trouvé, c'est-à-dire qu'elle est déjà dans ma poche. L'autre l'italien, tu ne pourras pas l'ignorer. Il y a un problème là. Si tu dis que tu ne peux pas l'ignorer, ça veut dire que tu me parles avant que je l'ai trouvé. Donc c'est clair qu'il y a un problème dans le verset.
Donc c'est clair, tu l'as ramassé et tu te dis je verrai plus tard, mais tu l'as déjà ramassé.
D'accord. Alors que normalement, l'interdiction de ne pas ignorer, c'est avant que tu l'as trouvé. Donc, tu trouves,
Alors,
attendez, deux secondes, on va pas s'écarter, je finis là. Donc on a, et la prouta chez Ukraï Kabenayou, on aurait une différence dans le cas d'une prouta qui a pris de la valeur. Ça veut dire quelque chose qui n'avait pas la valeur d'une prouta, au moment où il a été perdu. Donc le contraire d'avant, d'accord ? Voilà, le contraire. Et que entre temps, longtemps qu'elle a été trouvée, elle a pris de la valeur. Alors, Mandamar Umetsata Rabbi Yuda qui a dit qu'on apprend la deuxième partie du verset, il a mis la perspective côté trouveur, dans ce cas-là. Ika, j'ai l'obligation de rendre. Puisque même si la personne qui a perdu, elle a perdu un objet qui n'avait pas la valeur d'une prouta, puisque maintenant l'objet que moi j'ai trouvé, puisque tu as mis la perspective côté trouveur, donc moi qui ai trouvé quelque chose qui avait plus qu'une prouta, est-ce que j'ai l'obligation de rendre?
Non.
Encore une fois. Rabbi Yehuda, il a mis la perspective côté trouveur. Il a dit toute perte qui sera trouvée par quelqu'un qui aura la valeur d'une prouta. On aura l'obligation de rendre. Il a mis la perspective côté trouveur.
Ouais.
Donc moi qui ai perdu cette pièce de 1 centime, que je pense qu'au moment où elle était perdue, elle n'avait aucune valeur. Et que maintenant, elle a une valeur de 50 euros.
Tu dois rendre.
Puisque j'ai mis la perspective côté trouveur, est-ce que j'ai l'obligation de rendre ? Bien sûr. D'accord ? Alors que Ouman Damar, l'autre avis qui a dit, donc Tanakama qui a dit que Asher Tova, qui a dit que Asher Tova, donc une perte qui sera perdue, ça veut dire qu'il a mis la perspective côté perdeur. Puisqu'il a mis la perspective côté perdeur, dans ce cas-là, les cas. J'ai pas l'obligation de rendre, puisqu'au moment où ça a été perdu, ça n'avait pas la valeur d'une prouta.
Donc on a deux perspectives différentes.
Donc a priori, l'Agmara a trouvé ici une autre manière d'expliquer, de défendre Rava, d'expliquer qu'il y a une différence halakhique entre Tanakama et Rabbi Yehuda. La différence halakhique, d'accord, le cas de figure serait un objet qui n'avait pas la valeur d'une prouta, qui a augmenté. L'Agmara repousse encore une fois cette preuve, elle dit non. Dit Ulman Damaru Metsata Abein Anashar Tovad, il dit je comprends pas. Veleika. Dit, même d'après l'avis qui a dit que on apprend de Umetsat, on apprend de la deuxième partie du verset, mais Abein Anashar Tovad, mais il faut quand même que l'objet soit perdu, en d'autres termes. J'aime bien ton histoire là, quand tu commences à me faire des séparations, de perspectives, etc. Mais le verset, il y a eu un seul verset pour tout le monde. Ce verset a dit, toute perte qui sera perdue de lui et qu'il l'aura trouvé. Ça veut dire qu'on devrait avoir les deux. Il faut qu'elle soit perdue de lui, ça veut dire qu'au moment où elle était perdue, elle a la valeur d'une prouta, et il la trouvera, il faut que celui qui l'a trouvé, il la trouve aussi quelque chose qui a une prouta. Vous me suivez ? Donc encore une fois, on repose la même question qu'on a posée tout à l'heure. En d'autres termes, on n'est pas d'accord avec ton histoire de perspective. Ça change rien ton histoire de perspective, puisque ton histoire de perspective aurait été valable si le verset n'aurait pas été comme le nôtre. C'est-à-dire si le verset aurait parlé ou du trouveur ou du perdeur. Mais puisque notre verset a parlé des deux, il a parlé d'une trouvaille, d'accord, il a parlé du perdeur et il a parlé du trouveur. De là, je comprends que et le perdeur doit perdre une prouta, et le trouveur doit trouver une prouta, ce qui est logique, d'accord,
ils
sont à égalité. Donc en d'autres termes, on n'est pas d'accord avec Rava. Et c'est d'ailleurs c'est ça ce qu'Abaye disait. Abaye disait que, puisque le verset a été formulé de cette manière, ça veut dire que on ne peut pas avoir de différence à l'Afrique, puisque on peut tirer le verset de tous les côtés. Bon. Alors, attention, on va insister encore, on n'a pas fini. Donc, a priori, on n'a toujours pas répondu à la question.
On n'arrivera pas à départager les
Donc, pour l'instant,
les deux cas.
Oui, justement. Donc, pour l'instant, si je vous pose la question, est-ce que Rava a raison ? Est-ce qu'il y a une différence à l'Afrique ? Non, il n'y a pas de différence à l'Afrique. On a essayé de dire qu'il y avait une différence à l'Afrique dans le cas d'une prouta qui a été dévalorisée. On a dit que ça ne marche pas. On a essayé d'expliquer qu'il y avait une différence à l'Afrique dans le cas d'une prouta qui a été valorisée, enfin, d'un objet, moins d'une prouta qui a été valorisée. On a expliqué que ça ne marche pas non plus. Et là seulement. Alors on a un cas intéressant. Ah, regardez, là, c'est un cas grande classe. Et là seulement, Pruta, chez Ukra. Il y a un objet, d'accord? Écoutez bien le cas, d'accord? Il y avait un objet qui a été perdu, d'accord? Écoutez bien, un objet qui a été perdu, quand il a été perdu, il valait une Pruta. Donc, si je mets la perspective côté perdeur, d'accord? Au moment où il a été perdu, il avait une Pruta. Très bien, je continue. Chez Ukra. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé?
Le marché s'était vendu.
Donc le marché, non! Chez Ukra. Ensuite, la pièce a augmenté encore. Elle a dépassé Pruta de loin. Ensuite, Veuzla. Ensuite, le marché a baissé. Et vous savez, c'est des événements qui peuvent se passer dans un pays, qui peuvent faire que les taux changent. C'est pas arrivé.
Ouais, il a rajouté, d'accord? Une spéculation.
D'accord? Veuzla. Ensuite, Veuzla, la pièce a baissé. C'est-à-dire que la pièce maintenant ne vaut plus une Pruta. Vechazra Veukra. Ah. Et au moment où je l'ai trouvé, elle avait déjà repris de la valeur. Donc, si je mets la perspective côté trouveur, est-ce que le trouveur a trouvé quelque chose qui valait une Pruta?
Oui.
Oui. Si je mets la perspective côté perdeur, est-ce que le perdeur a perdu quelque chose qui valait une Pruta?
Oui.
Oui. Le problème, c'est qu'il y a eu des événements qui sont passés entre les deux. Ah. Là, on peut plus casser comme avant. Avant, à chaque fois, on a essayé qu'on a cassé ce qu'on avait à dire, on a dit, oui, mais le verset a dit, perdeur et trouveur, il faut les deux. Il dit, mais attends, voilà, j'ai un cas. Et alors? Comment il va trouver une différence à la rigue dans ce cas-là? Regardez bien comment il va faire une différence à la rigue entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Dit, Madamar Meashertova, Tanakama qui a dit que on apprend de Ashertova, c'est-à-dire qu'on apprend de la première partie du verset, Ika, il y a l'obligation de rendre la perte. Pourquoi? Puisque d'après ce premier avis-là, qu'est-ce qu'il dit le verset? Toute perte qui sera perdue et que tu trouveras. Ça veut dire qu'il faut qu'elle ait la valeur d'une Pruta et quand elle a été perdue et quand elle a été trouvée. C'est le cas. D'accord? Mais, Umetsata, la vie qui a dit Umetsata, qu'on apprend, Umetsata, pardon, de Inland It Beshur Metsia, Mishéat Aveda, de Asheat Metsia. Regardez bien ce qu'il dit ici. Rabbi Yehuda, il apprend comme ça. Rabbi Yehuda, regardez bien comment il apprend le verset. Toute perte, je répète le verset, toute perte de ton frère, qui sera perdue de lui, et que tu la trouveras, Rabbi Yehuda dit à quoi il sort le mot « et que tu la trouveras » Pourquoi je dis « et que tu la trouveras » Pour te dire qu'il ne doit rien se passer entre le moment que tu l'as perdu et le moment où tu l'as trouvé. Vous me suivez? Attendez.
Qu'il a été perdu,
toute perte. Bon, on a des statistiques.
En tant qu'événementiel.
Oui, événementiel. Toute perte qui sera perdue et que tu auras trouvé. Toute perte, en d'autres termes, qui avait la valeur, donc qui était perdable, donc qui avait la valeur d'une Pruta quand il a été perdu, et que tu trouveras, et... C'est quoi le « et » Le « vav » en hébreu, c'est un « vav » à ribour, le « vav » qui attache. Pour te dire que il ne doit rien avoir qui s'est passé entre les deux. Donc selon Rabbi Yehuda, est-ce qu'il faudrait rendre dans ce cas-là? Non. Puisqu'il y a des choses qui sont passées entre les deux. Donc on a réussi à trouver une différence, et la Gemara ne casse pas sa différence. Donc on a réussi à trouver une différence entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Parce que selon Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? On va commencer par Tanakama, pardon. Tanakama a dit « Toute perte qui sera perdue de ton frère, et que tu la trouveras. » Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire qu'il faut qu'au moment où tu l'as perdu, elle vaut une Pruta, et au moment où tu l'as trouvé, elle vaut une Pruta. Entre les deux, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que moi, je mets la perspective côté perdant, d'accord? Et il faut que au moment où tu l'as perdu, elle a une Pruta, et au moment où tu l'as trouvé, elle a une Pruta. Entre les deux, ça me dérange pas. Rabbi Yehuda dit non. Il dit, et tu la trouveras. Toute perte qui sera perdue, et tu la trouveras. Ça veut dire qu'il faut qu'il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a pas eu de fluctuation entre le moment où tu l'as perdu et le moment où tu l'as trouvé. S'il y a eu des fluctuations qui ont fait que l'objet, à un certain moment, est descendu en dessous d'une Pruta, dans ce cas-là, j'ai pas l'obligation de rendre. Quand on réfléchit, ça pourrait s'appliquer dans des actions de bourse. On peut avoir un problème de Aveda dans une action de bourse.
C'est quoi Aveda?
Une perte. Trouvaille. Je vois quelqu'un qui est en train de perdre de l'argent. D'accord? Le banquier. Je vois quelqu'un qui est en train de perdre de l'argent. On peut imaginer un cas. D'accord? Un trader. Il voit qu'il y a quelque chose qui est en train de descendre. Quand on lui a donné, ça avait la valeur d'une Pruta, mais entre temps, le marché il est descendu, et après le marché il est remonté. Et le trader il va se dire, d'accord, il va aller chez, donc le gars, une fois que l'action est bien remontée, le gars va voir le trader, il lui dit, monsieur, rendez-moi mes actions, le monsieur il dit, attendez, mais vos actions étaient à 1 centime d'euro, vous les avez abandonnées quand c'était 1 centime d'euro, vous êtes plus, vous revenez me voir. Donc maintenant je les ai gardées. On aurait une différence ici. Il faudrait réfléchir, hein, manger, il faut bien réfléchir.
Non monsieur, j'ai pas perdu parce qu'il y a le VAV. C'était collé.
Faudrait réfléchir. Bon, ceci dit, c'est pas si simple parce que quand même le trader est considéré comme l'employé de la personne qui lui a donné de l'argent. C'est pas, bon, c'est pas simple, mais on a des, tu sais, les fluctuations, c'est valable dans la bourse. D'accord.
J'ai toujours pas ma réponse, moi, sur ma question tout à l'heure. Oui. Là, on a parlé des objets, parce qu'il faut pas oublier que tous les objets à l'époque, c'était, on avait, même ça, ça n'existait pas. Il y avait rien de manufacturé. Chaque objet, c'était un travail physique qui prenait du temps. Donc, les objets qui valaient moins une broutaille, ils étaient rares, en vérité. Hein, tout ça, c'était du boule. Mais c'est pas ça que je parle. Moi, je parle du cas où il y a une valeur affective.
Et ça, on peut pas savoir.
Une photographie, voilà. J'ai une seule photo, c'était celle de ma mère ou de machin, je l'ai perdue. Je mets même une mise à prix dans les journaux.
Monsieur Bismuth, une photo à la valeur d'une prouta.
Pourquoi ?
Parce qu'une photo, ça a la valeur d'une prouta. Pour celui qui l'a
perdue.
Pour celui qui l'a perdu. Celui qui l'a perdu, c'est sûr que ça a la valeur d'une prouta. Si c'est une photo, c'est sûr. Alors, c'est possible que ça ait la valeur d'une prouta pour lui. C'est possible que son ex, qu'il a divorcé, qu'il ne veut plus voir sa photo. Et si tu viens, tu dis, monsieur, voilà la photo. Il dit, mais laissez-moi tranquille.
Mais, brûler.
Mais non, on va la brûler. Vous n'avez pas un briquet.
Bon, un objet.
D'accord.
Un objet.
Effectivement.
Alors,
c'est un objet. Si on estime que c'est un objet qui a une valeur affective, eh bien, il faudra le rendre. Ouais, c'est très rare, les objets qui n'ont pas la valeur d'une prouta.
Qui c'est qui estime?
C'est moi, c'est le Beddin.
C'est le trouveur.
Si j'ai un doute, je demande à un rave.
Le trouveur.
Si j'ai un doute, je demande à un rave. Si je sais pas, je demande à un rave.
Tu vois, un doudou en peluche par terre, dégueulasse, qui est tombé une poussette.
Ouais.
J'aurais été prêt à donner je sais pas combien, moi, pour que ma fille le retrouve. Elle en a pleuré pendant des semaines.
Ouais.
Cette petite peluche râpée que tu l'as donné. Ouais. Rien, tu ne donnes pas un centime là-dessus. Pourtant, il y avait une grosse valeur affective.
Ouais.
Et moi, je savais que ma fille, elle en avait besoin.
Enfin. Alors, on y va, on continue.
Elle a une autre, mais ce sera jamais. Elle a pris des photos. Quand elle regarde les photos, c'est quand elle dit, oh, mon Dieu, je... Elle a 23 ans aujourd'hui. Hein.
Elle a été marquée.
Je crois
que le papa aussi a un peu marqué.
Ouais, ça a une grosse valeur. Alors, tu vois, cette peluche, tu ne l'as même pas 10 centimes. Tu ne l'as même pas.
Oui, il a raison, ouais. C'est vrai.
Ouais. Bon.
Oui, mais ça, tu veux pas dire que ça vaut une prouta ?
Non, si, ça vaut une prouta. Bien sûr, une valeur affective, c'est considéré, ça vaut.
Alors, ça veut dire que nous, alors,
mais celui qui l'a trouvé, il faut qu'il sache encore. Nous, on se base sur les statistiques, hein. Bien sûr, on peut pas. Si sur les statistiques, ça vaut rien. Ah, Er Khasra. Ça va ? Bokartov.
Merci. Razak.
Ok. La Gemara continue à dire, il va y aller où ? On leur a posé la question suivante. On a posé la question suivante au Beit Midrash. Simanim de Oraita ou de Rabbanan. On a déjà eu cette question quelques minutes plus haut. Est-ce que les simanim c'est de la Torah ou est-ce que c'est des Chachamim? J'explique la question. Tiens, elle est là, Dagmara. Ah oui, tu l'as rangé là-bas, d'accord.
Ah non, c'est
est-ce que les simanim sont de la Torah, d'accord, ou est-ce que les simanim sont des Chachamim? En d'autres termes, quelle est la question ici? Normalement, d'accord, normalement, selon la Torah, écoutez bien la question.
Oui.
Normalement, selon la Torah, on a l'obligation de rendre un objet uniquement, enfin on a l'obligation générale de, selon la Torah, non force de loi que deux témoins. Un témoin qui peut être là en train de crier, de dire c'est à moi, ça vaut rien. On est bien d'accord. Dans la Torah, toujours, combien de témoins il faut au minimum? Deux témoins. Très bien. Donc on a la question suivante qui se pose. Dans le cas d'une trouvaille, moi je trouve quelque chose. Il y a quelqu'un qui va venir me voir et qui va me dire c'est le mien. Okay, c'est le tien, donne-moi un siman. Il va me donner un siman. Voilà, j'ai un siman, il me donne le siman. Avec tout le siman qu'il peut me donner et que je vais lui rendre. Mais a priori, c'est un seul témoin. Et c'est même pas un témoin en vérité. Puisqu'il est concerné. D'accord ? C'est le proprio. Alors, la question qu'on se pose, c'est la suivante. Est-ce que selon la Torah, les simanim valent quelque chose ? Est-ce que selon la Torah, les simanim valent quelque chose ? C'est-à-dire, est-ce que selon la Torah, les simanim font force de loi ? Ou est-ce qu'on va dire qu'en vérité, selon la Torah, les simanim n'ont pas de force ? Les simanim ne valent rien, puisque ce n'est pas des témoins. Mais pourquoi on a instauré le concept des simanim? On a instauré le concept des simanim parce que sinon ça n'en finit plus. Hein, sinon, si on devrait avoir deux témoins qui regardent chaque chose que j'ai chez moi à la maison, on n'en finit plus. Donc en vérité, ça aurait été quelque chose qui aurait été instauré par les Chachamim. Vous voyez la question?
Après, c'est pas une affaire d'argent.
Oui, mais est-ce que ça a force de loi, selon la Torah? Les simanim. Dans la Torah, il faut toujours deux témoins.
Oui, pour un procès, d'accord, là, il n'y a pas de procès.
Il ne faut pas oublier quelque chose ici. C'est qu'ici, on est motzi mechavero. C'est-à-dire que quand moi j'ai trouvé quelque chose, que je l'ai dans ma propriété, celui qui va me déposséder, donc même si c'est propriétaire, il va me déposséder de quelque chose que j'ai trouvé. Pour me déposséder de quelque chose, normalement, il faut deux témoins.
Mais moi aussi, je vais le déposséder.
Il faut ou deux témoins ou une preuve.
Que celui
ou une là, preuve. Une preuve, ça pourrait être un contrat, par exemple. Là, dans ce cas-là, le contrat est comme si j'avais deux témoins, une facture. La facture, je te montre que je l'ai acheté. D'accord ? Mais dans mon cas ici, je n'ai pas de facture.
Tu me dis que c'est celui-là. En plus.
D'accord ? Je n'ai pas de facture. C'est un siman. Bah, un siman, c'est un signe distinctif. Ben, ça, on peut en trouver des signes distinctifs. Donc la question qu'on se pose ici, d'accord ? C'est est-ce que la Torah fait confiance au simanim d'une personne, ou est-ce qu'on va dire qu'en vérité, selon la Torah, les simanim, ça n'a pas de force de loi, mais c'est les chachamim qui ont instauré ça, parce que sinon, on n'en finit plus. Si une personne devrait avoir des témoins qui sont constamment à côté de lui, dans ce cas-là, on n'en finit plus. D'accord ? Alors, c'est intéressant ce qu'il explique dans le je ne sais pas s'il l'amène ici dans les notes, vous verrez, dans le Ksat HaChoshen, il dit que il essaie d'analyser pourquoi on aurait dit que la Torah ne fait pas confiance au simanim. Vous me suivez ? Pourquoi on aurait dit que la Torah ne fait pas confiance au simanim ? Alors, deux possibilités. Regardez bien, deux possibilités. Ou bien on peut dire, parce que la Torah en vérité ne fait pas confiance. Et la Torah, selon la Torah, elle aurait dit que peut-être c'est un menteur. Très bien. On lance une autre hypothèse. Que peut-être que celui qui l'a perdu n'est pas un menteur. Non, il a les bons simanimes. Mais peut-être qu'il y a une autre personne qui a perdu le même objet avec les mêmes simanimes. Donc du coup, il va devenir voleur.
Ce sont pas des simanimes.
Si, c'est des simanimes. Ça, c'est distinctif, mais... C'est une distinctive, voilà, ben moi j'ai sur mon portage un signe distinctif ici, là j'ai une... Bon, alors regardez bien, c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça, regardez, parce qu'il faut savoir que les Chachamim, on l'a appris dans la première Mishnah du Pirkei Avot. Les Chachamim, c'est une des choses qu'ils ont instauré, la Anshei Knesset HaGedoula, la Grande Assemblée, ils ont demandé aux Chachamim de va'asu siyag la Torah. Ça veut dire de faire des limites autour de la Torah. Ça veut dire de rajouter même des choses, c'est-à-dire qu'on leur a donné la possibilité de faire des barrières, ouais. Et de rajouter des takanot, d'instaurer certaines choses. Donc c'est là la question, ça veut dire de toutes les façons dans la halakha ça ne changera pas. De toutes les façons, hein, quelqu'un qui vient et qui t'amène des simanim, il faut lui rendre son objet. Mais est-ce que ça a été instauré par les chachamim, ou est-ce qu'on va dire que et que selon la Torah il aurait fallu des témoins, ou est-ce qu'on va dire que non, ou est-ce qu'on va dire que selon la Torah ça ne vaut rien, mais c'est les chachamim qui ont instauré, c'est les chachamim qui ont instauré ça. Donc est-ce que ça a été instauré par les chachamim, ou est-ce que ça a été instauré par la Torah? Alors la Gemara toujours pose la question qu'on a toujours l'habitude de poser, Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Ça change rien, et ça a été instauré par les rabbins, par la Torah, ça nous change quelque chose à nous? L'utilisateur final, hein? Est-ce que ça va nous changer quelque chose? Si ça a été instauré, si c'est quelque chose de bas niveau ou de haut niveau, ça change rien, c'est de toutes les façons, c'est instauré. D'accord?
Tu tournes la page, d'accord. Il y a des implications.
Alors écoutez bien, la Gemara répond, elle dit, la différence serait, Léa Douré, Get Isha Besimanim. Hein, on étudie actuellement, lundi et jeudi, on étudie la Maséchet Gittin, pour rendre le guet d'une femme avec les simanim. Ça veut dire quoi? Écoutez bien le cas, c'est un cas qui est un peu poussé. Si un mari a envoyé un guet, d'accord, donc un acte de divorce, par un shliach, par un émissaire, par quelqu'un qui est, donc il veut pas se déplacer, donc il envoie le guet par un émissaire vers sa femme. Donc il dit voilà, tu amènes ce guet à ma femme et tu la divorces avec. Le guet a été perdu. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Le guet a été perdu de la main du coursier, avant qu'il ait transmis à la femme.
Il n'est pas caché.
Deux secondes, j'ai pas fini. Est-ce que on a la possibilité de rendre le guet, donc quelqu'un y trouve le guet,
au shliach.
Est-ce qu'on a la possibilité de rendre le guet au shliach pour que le shliach le donne à la femme? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non,
vous
mettre le guet d'un autre. Ah bah non, si elle a le nom, tout ça. Ah,
attendez, c'est personnalisé là. Réfléchissez à ce que je suis en train de dire. Donc c'est une perte ici, on est bien d'accord.
Oui.
D'accord.
Il a fait modifier.
Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On a dit que la question qu'on a eue, c'est est-ce que les simanim...
C'est un vrai chaliar, il est seul.
C'est un vrai chaliar, il est seul.
Donc, il a vu.
Mais il est seul. Écoutez bien. Est-ce que les simanim sont de la Torah ou est-ce que les simanim sont des chachamim? Là, on aurait une différence dans ce cas-là. I amra doraita. Si tu me dis que les simanim sont de la Torah, à Madrinan, il faut rendre le guet. Au shliach. Pourquoi? Parce que les simanim sont de la Torah. Ça veut dire que quand on va rendre le guet au shliach, on est sûr avec les simanim. Je dis oui, je reconnais, c'est écrit ça et ça comme ça. On est sûr que c'était le guet que le shliach avait en main. Donc le guet reste caché sur toute la ligne. Mais i amrat terabanan. Si tu vas me dire qu'en vérité selon la Torah ça vaut rien. Selon la Torah il aurait fallu des. Si tu vas me dire que selon la Torah il aurait fallu des témoins. Et là les témoins on n'en a pas. D'accord? Et que qui en vérité, donc c'est une takana de Chachamim. Qui avoue de Rabbanan Takanta? Dans quel cas les Chachamim peuvent faire une takana? Seulement avec Mamona. Seulement dans des cas d'argent, dans des litiges d'argent. Aval Beissoura. Mais dans un Issour, le avoue de Rabbanan Takanta. Les Chachamim ne peuvent pas faire une takana. Pourquoi? Parce que ici c'est une takana qui va déraciner une halakha de la Torah. Vous comprenez? C'est pas de la blague. Là, c'est pas un litige d'argent. Quand c'est un litige d'argent, là, dans ce cas-là, on peut considérer que les Chachamim peuvent... Écoutez bien ce que explique Rashi. Pourquoi dans l'argent, les Chachamim peuvent, et dans le Issour, les Chachamim ne peuvent pas? Parce qu'on a une halakha qui dit que efker, beddin, efker. Que le beddin peut rendre efker, c'est-à-dire que le beddin peut déposséder les biens d'une personne. Vous me suivez? Le beddin peut déposséder les biens de qui il veut. Ça veut dire que quand le beddin va venir et il va dire, imaginez-vous, voilà, par exemple, moi j'ai un objet ici, j'ai trouvé un objet. Le beddin va me dire, disons que selon la Torah, les simanim, ça n'a pas de force de loi. Et que le beddin va dire, quand Yaakov va venir me voir avec les simanim, tu auras l'obligation de lui rendre. Selon la Torah, j'ai pas l'obligation de lui rendre. Comment ils font les Chachamim pour me faire rendre, si selon la Torah il faut pas? Ils vont contre la Torah? Non. La technique des Chachamim, c'est que les Chachamim vont me déposséder, virtuellement, de mon objet. Mais puisqu'ils m'ont dépossédé de mon objet, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc ils vont décider que je le rends à Yaakov. Ça peut s'appliquer que sur de l'argent. Ça ne peut s'appliquer que sur de l'argent.
Parce que perdre de l'argent n'est pas
d'accord mortel. Parce que perdre de l'argent, c'est pas mortel, et parce qu'on peut me déposséder de mon argent et de mes biens. Sur un issour, ça ne s'applique pas. Sur une interdiction, ça ne s'applique pas. On peut pas, les Chachamim, ils peuvent pas déposséder quelqu'un d'un issour. On peut pas dire, bon, pour toi, on enlève l'interdiction, pas de problème. On peut pas. Ah, dis, bon, monsieur, combien? Allez, tu payes et j'enlève l'interdiction. Ça va. On va faire ça. Donc, dans ce cas-là, si selon la Torah, le guet n'est pas valable, puisqu'on n'est pas sûr que c'est un guet qui vient du mari. Peut-être c'est un guet écoutez bien. Peut-être c'est un guet qui a été perdu par un autre homme. Il y avait même nom, même ville. Peut-être. Si selon la Torah, ce ne serait pas valable, et bien dans ce cas-là, on n'aura pas pu rendre. Donc voilà, on a trouvé un cas de figure. D'accord ? On a trouvé un cas de figure dans lequel, si on va dire que les simanim sont de la Torah, on peut rendre le guet au shliach. Si on va dire que les simanim sont des chachamim, on ne peut pas rendre le guet au shliach. Donc la question n'est pas simple. Donc maintenant, on a trouvé une question. C'est pas une simple question de cul. C'est pas une simple curiosité. Intellectuelle. D'accord ? On a un afkamina, c'est-à-dire qu'on aura une différence. À l'achik, on aura un cas de figure dans lequel il y aura une différence. Il y aurait une différence si on dit que les simanim sont de la Torah ou si on dit que les simanim sont des chachamim. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que j'ai rien compris dans ton histoire. J'ai rien compris, que ça change si c'est de la Torah ou des chachamim pour le guet.
C'est que, comme le guet c'est pas de l'argent, comme le guet c'est une interdiction,
d'accord.
Donc les chachamim ne peuvent pas déraciner une interdiction.
Quelle interdiction?
Très bien, écoutez bien, parce que la Torah elle te dit que le guet doit venir du mari et qu'il doit arriver à la femme.
C'est les conséquences.
Là le guet a été perdu
par le shaliach.
Le guet a été perdu par le shaliach. Il a été retrouvé. On prend ce guet-là, on le ramène à quelqu'un. On prend ce guet-là, on veut le retrouver, on le ramène au shliach.
Oui.
Peut-être que c'est pas le même guet qui a été perdu.
Peut-être
qu'il y a une autre personne qui l'a trouvé. Qu'il y a une autre personne qui avait écrit aussi un guet.
Il y a deux shliachim qui ont perdu.
Voilà. C'est possible. On est bien. C'est possible. Tu vas me dire c'est un cas, tiré par. C'est possible. Donc puisque
même
selon
même
la,
nom, même lieu,
puisque selon la Torah,
deux, deux.
Non parce que le lieu c'était pas obligé à l'époque,
ouais.
Vu que le nom,
oui, mais il y a pire que ça alors.
D'accord. Attendez, puisque tu me dis que selon la Torah, les simanim n'ont pas de force de loi, c'est que les rachamim qui ont instauré. Les rachamim n'auraient pas pu instaurer dans ce cas-là, puisque les rachamim peuvent instaurer ce qu'ils veulent que dans un cas d'argent, mais dans un cas de issour, dans un cas d'ici que la femme, ça veut dire que si le gars n'est pas bon, la femme est une femme mariée. C'est très grave ce qu'on est en train de dire ici.
Ouais.
D'accord, elle reste mariée et si elle se remarie, mamzerim, etc. Donc là, dans ce cas-là, les chachamim ne peuvent rien faire. Donc si on va dire que les simanim sont de la Torah, c'est une force de loi de la Torah, donc là, dans ce cas-là, on rend le guet au shliach, et le shliach, l'émissaire, va divorcer avec, il n'y a pas de problème, c'est une force de loi selon la Torah. La Torah considère que c'est le même guet. Mais si tu me dis que selon la Torah, c'est pas une force de loi, c'est que les chachamim qui ont instauré, parce que sinon on n'en finit plus. Ça, les chachamim ne peuvent pas dire ça dans le cas du guet. Parce que les chachamim ne peuvent dire ça que dans un cas d'argent. Parce qu'ils peuvent déposséder virtuellement l'argent de quelqu'un. Mais un issour ne peut pas le faire.
Donc pour une perte matérielle alors.
Pour une perte matérielle. Mais pour une interdiction, pour un interdit, ils ne peuvent pas le faire.
Quand ça dégénère en génération.
Ça, ils ne peuvent pas le faire. Donc dans ce cas-là, les chachamim auraient été obligés de dire au shliach, monsieur shliach, nous on déchire le guet et je vais chercher un autre guet.
Ça commence. Mais c'est déjà marié.
Non, le guet n'est pas encore arrivé dans la main de la femme.
Et si c'est la femme qui l'a perdu?
Là, c'est bon. Pas de problème. De toute façon, la femme le reçoit devant un beddin. Donc on sait qu'elle a reçu, il n'y a plus de problème.
Pourquoi devant un
après, écoutez bien, le guet que la femme a, après, c'est seulement un élément de preuve. C'est-à-dire, si un jour on lui dit, prouve-nous que t'es divorcé, elle dit, voilà, j'ai mon guet. Mais elle est déjà divorcée. C'est-à-dire que si femme, il y a une copie du guet au beddin, il n'y a pas de problème. C'est seulement un élément de preuve, c'est comme un ticket de caisse.
C'est
marié, c'est fait de rembourser.
Voilà, le mari, il amène le ticket de caisse, alors.
Non,
là, elle n'a pas encore reçu le guet.
Elle n'a pas encore reçu le guet.
Non, mais elle a divorcé après le tribunal.
Non, elle ne peut pas divorcer. Là, on a un beddin qui a reçu. Là, on a un beddin qui reçoit un guet. D'accord. Le beddin, quelqu'un qui trouve un guet, il dit où
le lâcher. Il a été payé pour ça, il trouve le moyen de faire le scandale.
C'est au fond. Ouais. Donc là, on a un beddin qui trouve le guet. D'accord ? Et le Bedin ne sait pas quoi faire avec. Donc le Bedin se dit, si on dit que les simanim sont de la Torah, donc on va proclamer, on va dire qui c'est qui a perdu un guet ? Très bien. On va trouver le guet et on va retrouver le shliach, il va nous donner les simanim, on lui rend, et c'est une force de loi selon la Torah. Mais si tu me dis que les simanim, ça n'a pas une force de loi selon la Torah, dans ce cas-là, le Bedin ne peut rien faire, il est obligé de déchirer le guet. Parce que qui te dit que c'est le même guet ? Peut-être c'est un autre.
Mais il va demander
le Bedin aurait pu faire ça seul. Pardon ?
Il va se renseigner. Il va demander au mari.
Mais non, ça ne change pas. Parce que le guet doit être écrit l'ishma. Il doit être écrit par le mari pour la femme. Peut-être ce guet-là n'a pas été écrit.
Il va demander au mari.
Non.
Est-ce que c'est le bon ?
Ça ne change pas.
On n'est pas sûr que ce soit le bon.
On n'est jamais sûr que c'est le bon. Peut-être que ça a été écrit par un autre sophère qui a la même écriture, par un autre mari qui a une femme qui a le même nom. N'oubliez pas qu'à l'époque, on n'écrivait pas les noms de la ville.
Oui, non, mais d'accord. Mais le mari lui a envoyé le guet.
Pardon, oui.
Donc si tu demandes au mari, il va dire oui, effectivement, j'ai fait un guet.
Très bien. Mais le problème, c'est que le guet du mari doit être écrit l'ishma pour la femme, comme on étudie. Il doit être écrit pour le nom de la femme.
Oui.
D'accord. Et c'est ce même guet qui doit être réceptionné par la femme. Si la chaîne a été coupée, est-ce qu'on peut garantir que c'est ce même guet ? Non. Donc si tu me dis que les simanim sont de la Torah, je dis bon, on fait comme si que c'est le même guet et on le rend. Si tu me dis que les simanim sont des chachamim, on a un problème.
Mais pourquoi prévenir le mari quand on a trouvé un guet ?
Pardon ?
Parce que c'était le tien.
Non, on n'a même pas besoin.
Alors peut-être lui croit qu'il est divorcé puisqu'il croit que le mari.
Ah oui, tu veux dire dans le cas où on déchire le guet ?
Oui.
Bien sûr. D'accord ?
Non, on n'a pas dit qu'on se base sur la majorité que...
Mais c'est pas une obligatoire.
Non.
C'est obligatoire, c'est pas bien.
Cas,
si, c'est obligatoire.
Non, parce qu'à l'époque, il
mais là, encore une fois, là, c'est la question. La question est que normalement, les simanim, d'accord, normalement, selon la Torah, pardon, il faut des témoins. Vous comprenez ? Ça, c'est la question. On aura la réponse, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. On s'arrête ici pour aujourd'hui.
Ah oui.
Voilà.
Bon, à quelle heure